Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre d'un freelance comme toi pour échanger sur une thématique clé de ton activité de freelance. Et avant de commencer, je tenais à te dire un immense merci pour ton soutien. Le podcast a dépassé cette semaine les 12 000 écoutes et les messages que je reçois me vont droit au cœur et me donnent beaucoup d'énergie pour continuer de vous apporter de la valeur chaque semaine. Et pour faire un peu de plus ensemble, si tu pouvais prendre juste 2 minutes pour mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ce serait vraiment merveilleux, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet. Dans notre épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Marion Servarin. Marion est hypnothérapeute, humaniste, coach et aussi auteur du livre « Les routes de la liberté ». Dans notre échange, on parle de l'importance d'explorer les franges du tapis, une métaphore que Marion utilise pour faire référence à notre zone de vulnérabilité, qui se trouve pas tout à fait en dehors de notre zone de confort, mais pas non plus tout à fait à l'intérieur. Pour elle, c'est ici, sur les franges du tapis, que sont advenues certaines des plus grandes découvertes et apprentissages de sa vie, mais aussi de son activité de freelance. Je vous laisse vous plonger dans notre échange pour les découvrir, et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure.
Bienvenue sur le podcast, Marion.
Merci de m'inviter. C'est gentil.
J'ai plein de questions à te poser. Comme tu disais, je sais que tu es quelqu'un qui a plein de choses à partager, mm-hmm. Donc c'est très cool de t'avoir. On va commencer par une question simple, qui est la question que je pose à tout le monde, donc tu as sûrement déjà entendu, c'est comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante ou freelance?
Ouais. Comment? Après un long parcours de remise en question et d'introspection, en fait, à la base, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans le management qualité, sécurité, environnement. J'ai fait un master à Lyon. Et en fait, je crois que ça a commencé par ces cours dans le master que je suivais, qui, en fait, voulaient nous relier plus aux compétences du savoir-être que du savoir-faire. En tout cas, c'était une volonté du programme de nous relier à nos soft skills.
Un mot très en vogue.
Très en vogue. Et là, j'ai découvert en fait le monde des émotions, du développement personnel, de la connaissance de soi, en lien avec le management et en lien avec la musique aussi, puisque c'était un chef d'orchestre qui nous faisait ces cours-là.
Trop bien.
Et ça m'a fascinée. Donc, ça a été la première porte d'entrée de ok, je découvre ce monde-là et dans mon parcours après, j'ai voyagé, etc. Et quand je suis rentrée de mes voyages, je me suis dit j'avais envie d'accompagner les autres dans le développement personnel.
C'est le voyage dont tu parles, c'est le voyage que tu décris dans ton livre, c'est ça?
Oui,
on reviendra sur le livre après. Oui. Ok, et du coup, donc le pourquoi, c'était pour accompagner les gens dans ces mêmes réflexions que celles auxquelles tu t'étais toi-même confrontée pendant ce voyage.
Ouais.
Et du coup, ça a mis combien de temps? Donc, t'es rentrée de ce voyage, et dès ce moment-là, tu te dis, ok, faut que je sois indépendante, ou non. Est-ce que t'as exploré
d'autres? Oui et non.
Oui et non.
C'est-à-dire que j'ai retrouvé des écrits, où, comme j'écris beaucoup, j'ai retrouvé des écrits où je dis, où je veux accompagner les personnes dans les mêmes questionnements, comme tu l'as dit. J'ai envie que les gens aient ces déclics il y a plus que ce qu'on nous fait croire, que ce chemin du CDI et du salariat, et aussi de cette intériorité à découvrir, en fait, finalement, et à expérimenter, en tout cas. Et du coup, j'ai envie, mais je me sens pas légitime. J'ai 25, même pas 25 ans quand je rentre de mon voyage. Et je me dis, mais je suis qui, moi, pour accompagner les autres? J'ai aucun outil. Je me sens pas. Donc, je sens pas que j'ai les épaules pour ça. Et du coup, je suis passée moi-même par la moulinette, finalement, de, ok, t'as envie de faire vivre quelque chose aux autres, mais déjà, de vivre toi-même aussi. Donc ça a mis du temps en fait, ça a mis 9 mois à Paris où j'ai beaucoup expérimenté d'ateliers de conférences sur le développement personnel, intelligence collective. Et je me suis inscrite en parallèle pour suivre un doctorat au Québec, au Canada, sur l'intelligence émotionnelle, donc la gestion des émotions dans les organisations, dans les entreprises.
Là, donc tu gardais ce lien avec le management.
Oui, parce que c'était le lien avec mes anciennes études et mon mémoire, et donc c'était le plus évident. Et pour moi, c'était la seule porte d'entrée pour me sentir, à l'époque, je pensais que c'était la seule porte d'entrée pour me sentir légitime et gagner en confiance et en outils. Et donc, je suis partie au Canada, j'ai arrêté le doctorat très vite, c'était trop théorique pour moi. Enfin, ça a été tout un cheminement. Donc, en fait, finalement, entre je suis revenue de voyage et je me suis lancée à mon compte, il s'est passé quasiment 2 ans.
Ah ouais, 2 ans d'expérimentation, de questionnement, où tu joues un peu à tâtons et te demander est-ce que c'est vraiment ça ou pas.
Ouais.
Donc, tu as testé plein de différentes méthodologies, c'est ça?
Ouais, j'ai déjà vécu, moi, des stages, vivre de l'intérieur aussi, travailler sur soi avant de vouloir accompagner les autres. Surtout, toute sa vie, mais quand on est jeune comme ça, on expérimente un manque de confiance et de légitimité, peut-être.
Le syndrome de l'imposteur, comme tu disais tout à l'heure.
Dû à l'âge, quoi. Qui je suis à 25 ans, accompagner des gens qui ont peut-être le double d'âge que moi. Donc voilà. Et aussi, j'avais envie de continuer de voyager. C'est aussi pour ça que je suis partie au Canada. Là-bas, ils sont plus ouverts sur ces thématiques-là. Donc, ça a été sympa d'expérimenter aussi leur point de vue à eux, leur culture là-dessus. Et c'est d'ailleurs là où je me suis lancée dans mes premiers ateliers écriture et développement personnel, avec cette bienveillance québécoise où finalement, tout est accueilli et tout est très positif. Donc, ça m'a permis, moi, de me lancer et d'expérimenter cette posture d'animer. Et puis être participante.
Du coup, tu as commencé à animer au Québec.
Oui.
C'était avant que tu ouvres que tu te lances à ton compte, comme tu disais.
C'était les tests. Ouais,
les expérimentations.
Oui.
Et du coup, t'as gardé ce même modèle quand tu t'es lancé, quand t'es revenu en France et que tu te lances à ton compte. Est-ce que t'as conservé ce même modèle au départ de l'atelier?
Oui. Ça a été le premier, en fait, concept pour moi, c'est je me suis dit je veux faire des ateliers collectifs. Donc moi le collectif c'était plus facile pour moi. Il y a certains ils préfèrent l'individuel, moi c'était le collectif, accompagner les collectifs. Et en fait le vrai déclic pour moi ça a été au Québec de découvrir la danse thérapie, la danse libre. Moi je fais de la danse depuis mes toutes jeunes années, hein, plus de 20 ans de danse moderne. Et quand j'ai découvert ce concept d'exprimer ses émotions, de s'exprimer avec son intériorité, par son corps, par les mouvements. Là encore, deuxième switch un peu, je vis des petits switches dans ma vie qui font « waouh, waouh, c'est puissant, c'est intense ». C'est beau, c'est inconnu, et je vois à quel point il peut avoir un potentiel énorme derrière tout ça. Et donc je monte avec cette femme qui me proposait la danse thérapie, des ateliers d'écriture et danse thérapie. Au Québec, on anime le premier, et à la fin de l'atelier, je suis presque en larmes, émue et toute vibrante à l'intérieur de moi de cette expérience de dingue. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire dans ma vie, en fait, il n'y a plus de doute. C'est plus avoir le doctorat, avoir un second master, ou accompagner les entreprises dans du consulting, etc. C'est vraiment aller faire vivre des expériences fortes, intenses, dans son corps, dans son être. Et là, je me suis dit, ok, en fait, je quitte tout. Donc, j'ai tout arrêté ce que j'avais entrepris au Québec. Et je suis rentrée en France pour me dire, je lance des ateliers en France. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Je sais que, toi, il y a un message que tu portes qui est tout autour de la vulnérabilité et de l'accepter, de l'expérimenter pour transformer, apprendre des choses. J'ai l'impression que ce déclic-là, dont tu parles, où tu fonds en larmes, tu découvres plein de choses sur qu'est-ce que tu as réellement envie d'apporter au monde, en fait, c'est un apprentissage que tu tires de cette émotion de de cette sensation de vulnérabilité.
Ouais.
Comment ça se traduit aujourd'hui pour toi, du coup, de continuer ça?
Ben déjà, c'est un chemin, clairement. Enfin, comme tout dans la connaissance de soi. Il n'y a pas un moment où, voilà, c'est pas parce que je l'ai vécu une fois d'être vulnérable et que je l'ai assumé et que ça m'a permis d'ouvrir des opportunités dans ma vie que maintenant je suis tout à fait ok avec la vulnérabilité.
Oui, bien sûr.
Pas du tout. Et c'est ça qui est marrant aussi à expérimenter, c'est de se dire, pour moi c'est fort et c'est un message que j'ai envie de porter, d'oser être vulnérable, de se montrer vulnérable, d'oser accepter sa vulnérabilité, et pour autant il y a plein de moments où moi-même j'arrive pas encore. Donc ça c'est aussi intéressant de le vivre. Du coup j'ai un peu oublié ta question parce que je me suis emmenée là-dedans.
Tu disais que on partait du postulat que un de tes messages c'était que la vulnérabilité c'est important pour apprendre des choses sur soi, comme ton expérience. Et du coup, comment est-ce que tu ancres ça aujourd'hui dans ton activité pour porter ce message auprès d'autres?
Mais en fait, même si je reviens du coup au début, je remarque depuis le début, c'est la vulnérabilité qui m'a permis d'entrer. Je sais pas si je suis rentrée en mouvement, en action, et donc j'ai été vulnérable, ou si je me suis sentie vulnérable.
Je sais pas.
Mais ce que je remarque, c'est, ok, à un moment de ma vie, j'ai 23 ans, je suis diplômée, on me propose un CDI d'un côté. Déjà à l'époque, on me proposait un doctorat de l'autre. C'était des voies toutes tracées. Et c'était la sécurité. Là, c'était le confort, en fait. Vraiment. Et pourtant, je me suis sentie très, très mal dans ce choix et dans cette vision de mon avenir qui me convenait pas du tout. Et dans cette position déjà de vulnérabilité, j'ai choisi encore plus loin, d'aller plus loin dans cette vulnérabilité, de partir voyager toute seule à l'autre bout du monde. Et finalement, ça a été le plus gros déclic de ma vie. C'était la plus grande et belle décision de ma vie qui m'a sûrement portée jusqu'ici aujourd'hui. Et finalement, ça s'est répété à chaque fois que j'ai osé sortir de ma zone de confort, à chaque fois que j'ai osé aller voir un peu dans l'inconnu ce qui se passait, que ce soit moi ou dans des situations externes, à l'intérieur de moi ou à l'extérieur. Je vois que c'est là où ça a été le plus fort en apprentissage, en expérience, en rencontre. Et finalement, c'est ça qui m'a fait faire des bons dans mon activité professionnelle ou aussi dans ma vie personnelle.
Des découvertes, comme tu dis là, par exemple, tu l'as vécu dans cet atelier et t'as le déclic de dire, en fait, moi, j'ai envie de proposer ça aussi. Et du coup, est-ce que c'est le cas? Je sais qu'aujourd'hui, t'es très active, t'as tes ateliers, tu fais de l'accompagnement en individuel, en coaching, par exemple, ou de l'hypnose aussi. Est-ce que à chaque fois ces nouveaux pans de ton activité, ça vient de ça aussi, une réalisation que tu as dans une expérience où tu te dis ah tiens ça m'a incroyablement touché parce que vulnérabilité etc. Et est-ce que c'est ça la transformation à chaque fois que ça vient peut-être de là ou pas mais
c'est de voir c'est à chaque fois je vois que pour la danse thérapie oui je vois que pour l'hypnose aussi. Parce qu'avant de me former en hypnose, j'ai suivi une thérapie en hypnose, et moi-même en tant que patiente.
Et du coup, touché.
Et du coup, ça m'a touché, et ça m'a mis dans des espaces inconfortables, de vulnérabilité, clairement. Mais aussi de beauté et d'évolution très rapide, du coup. J'ai l'impression que dès que je touche, Bah, ça pourrait être un peu assimilé au creux de la vague, là, surf. Ah, je reprends votre collectif.
Les métaphores.
Mais oui, les métaphores. C'est à chaque fois que je touche ce creux de la vague, finalement, je vois que ça me fait faire un rebond ensuite, en fait. Un peu en trampoline. Mais il faut aller toucher ce creux de la vague.
Il faut tomber de la planche pour manger du sable, pour apprendre les leçons et remonter sur la planche. Quoi. Ouais.
Donc oui, je vois qu'à chaque fois, j'attends pas aussi d'être à 100% prête. Je vois, c'est quelque chose qui me caractérise peut-être un petit peu, parce que je vois qu'autour de moi, il y a souvent des questions de « oui, mais attends, je suis pas prêt. Je peux pas me lancer parce que je suis pas prêt. Je peux pas proposer tel atelier ou tel concept ou telle formation ou prestation, en tout cas. » Parce que c'est pas rodé à 100%. Et c'est, je suis pas prête. Et puis des gens qui font des formations, ça coûte des milliers. Et finalement, ils se lancent jamais. Et je vois que moi, c'est quelque chose à chaque fois. Bah, je suis même pas formée aujourd'hui en danse thérapie, par exemple. J'ai pas de formation accréditée avec le petit tampon en bas de la page, là. L'hypnose, je l'ai. Mais c'est des choix aussi. Voilà, c'est des choix que j'ai faits, mais j'attends pas d'être, d'avoir tous les outils, toutes les formations, de me sentir hyper confiante. J'y vais d'abord, je teste ma posture, je teste ce que ça donne en collectif, en individuel. Je suis vraiment dans test and learn de la start-up, quoi, vraiment. Et ça, c'est intuitif chez moi, je le fais naturellement, en fait.
Je trouve ça hyper important ce que tu dis sur le 100% prêt. J'ai l'impression que c'est un peu un mythe où on se dit j'irai quand je serai prêt, mais qu'au final, le 100% prêt, pour moi, il arrive jamais, en fait. C'est-à-dire que pour n'importe quel sujet, plus on va le creuser pour être 100% prêt, plus on va découvrir qu'il est infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait à la base, comme un puits sans fond, et qu'on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, et si il n'y a pas un moment où on se dit « Ok, là c'est parti, j'y vais », au final on ne se lancera jamais. Et c'est marrant la vision de ce que tu dis, on peut faire enchaîner les formations, les certifications, et ainsi de suite, mais au final c'est juste une décision, j'ai l'impression.
Ouais, à un moment donné, c'est de se lancer, en fait, se voir dans la matière. Et je pensais à cette image de les chefs pâtissiers qui font des concours et qui s'entraînent. Mais il faut imaginer le nombre d'heures derrière d'entraînement. Et c'est pas théorique, c'est dans la matière. Ils le font, le gâteau, les cuisiniers, ils font dans la matière. Ils refont, ils refont, ils refont, ils refont, concrètement. Pour atteindre, après, une excellence, le but en tout cas.
Qui se sont fixés,
souhaités. Mais ils le testent vraiment. Et c'est pas une question de théorie. C'est, pour moi, c'est vraiment une question de pratique. Et se rejoindre, du coup, de vivre dans son corps. Vivre dans son corps, ça fait quoi d'animer? Moi, la première fois, je me rappellerai peut-être toute ma vie. C'était épuisant. Ça m'a fait peur. Je me suis même dit, non, c'est pas pour moi. Et de le refaire, parce que je m'étais engagée une deuxième fois. Et de le refaire, parce que je m'étais engagée une troisième fois. Et finalement, voir, bah non, en fait, c'est juste une question d'habitude.
Ouais. Puis trouver peut-être sa posture aussi dans comment est-ce que tu l'animes, parce qu'il y a peut-être une manière que t'as observée, qui n'était peut-être pas la bonne pour toi.
Ouais.
Il y a, je recreusais dans tes articles. Il y en a un que tu as écrit sur le pouvoir de la vulnérabilité, et il y a une phrase, j'ai pas réussi à finir en bas de l'article puisque t'es arrivé entre temps pour qu'on enregistre l'épisode, mais il y a une phrase qui m'a accroché le regard, c'est, tu disais, la croyance commune, implicite et bien accrochée, veut que le fait de se montrer, de s'avouer, de s'assumer, nous porterait comme étant fragile, entre guillemets, vis-à-vis de l'extérieur. J'ai l'impression que ça, c'est une bonne définition qu'on pourrait donner à, de la manière dont la vulnérabilité est perçue dans notre société aujourd'hui. C'est quoi le contre-pied de ça, du coup, que t'aimerais porter?
C'est de faire attention. Vulnérabilité, pour moi, ça n'a rien à voir avec fragilité, par exemple, ou diminution. Pour moi, c'est pas de cet ordre-là. Comme je disais, bah voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a la zone de confort, ce fameux cercle-là qu'on connaît, on commence à connaître maintenant, le cercle de la zone de confort. Et puis, il y a tout l'extérieur qui est un peu la zone inconnue, la zone d'inconfort. Et le but, pour moi, dans la vulnérabilité, d'assumer cette vulnérabilité, c'est pas complètement aller dans la zone d'inconfort et de danger, et donc se mettre dans une situation où on serait fragile et on serait à la merci, quelque part. Voilà, c'est pas le but. Mais un jour, j'ai entendu cette image que je vais reprendre, du coup, dans un des ateliers de développement personnel auquel j'assistais. C'est comme sur un tapis. Imaginez un tapis, il y a la zone de confort, c'est le tapis. Et puis à l'extérieur, c'est la zone d'inconfort, de danger, d'inconnu, en tout cas. Et le but, c'est juste d'aller aller un pas de plus, sur cette zone d'entre-deux où il y a les franges du tapis. C'est un peu de confort et un peu d'inconfort. C'est un peu d'inconnu et un peu de connu. Et le but, c'est pas de plonger tout le temps, en tout cas. pas tout le temps de plonger dans l'inconnu et dans l'inconfort. Il y a des fois où je pense que c'est pas mal, c'est comme un saut en parachute. À un moment donné, ouais. On peut pas être sur la frange, hein. Il faut sauter. La frange du tapis, là, non, il faut sauter. J'en ai fait un saut en parachute en Nouvelle-Zélande, donc je vois tout à fait ce que je veux. Je me dis, jamais je le ferai. Mais je le fais et je vois que ça m'apporte énormément aussi. Mmh. Donc des fois, on saute complètement dans la zone d'inconnu parce qu'on le sent, on se sent capable. Et puis la plupart du temps, je pense que la zone de vulnérabilité qui est intéressante pour apprendre, c'est cette frange du tapis qui est entre deux, en fait. Comment je peux faire un pas de plus,
ouais,
vers ce qui m'effraie, peut-être, vers ce dont je crois ne pas être capable, pour aller voir qui je suis dans cette zone-là.
Ce que je trouve intéressant dans cette manière d'en parler, j'aime beaucoup cette image du tapis et des franges, c'est top. Dans ce que tu dis là, j'aime beaucoup le fait que, en fait, quand on parle de manière plus classique, entre guillemets, en tout cas les messages qu'on entend beaucoup sur la zone de confort, faut en sortir, faut affronter ses peurs, c'est très vrai dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat, de dire, ben voilà, faut aller à l'encontre des peurs pour se découvrir, et ainsi de suite. Ce que j'ai l'impression que tu dis là, c'est pas cette vision courageuse du héros qui affronte la peur et qui va au-delà des challenges, etc. C'est une vision un peu plus douce, qui peut parler à d'autres personnes, parce que je pense... on avait cet échange dans notre groupe d'accompagnement sur Surf, il y a une espèce communautaire, il y a une personne qui posait la question de c'est quoi la vision introvertie de l'entrepreneuriat plutôt qu'extravertie, et je trouve que cette vision de cette histoire du héros qui affronte ses peurs, c'est un peu la vision extravertie, et qui parlait du coup de dire elle, ça lui parlait pas trop, et elle se demandait comment est-ce que d'autres personnes qui se sentent plus introverties font, et j'ai l'impression que cette manière-là de voir les choses, elle est un peu plus douce dans ce sens-là. Mais on a quand même les mêmes apprentissages parce que on y va en sentant notre énergie et notre vulnérabilité, comme tu dis.
Ouais. Puis ça dépend, voilà, des caractères. Il y a des gens qui aiment les sensations très fortes. Puis il y a des périodes de vie où on aime ça aussi. Les sensations fortes où on va aller sauter en parachute dans notre vie professionnelle sans savoir si le parachute il va s'ouvrir ou pas. Et ça fait des sensations, on est content. Il y a des caractères qui aiment ça. Et puis il y en a d'autres, en effet, non. Moi, j'aime pas le terme affronter ses peurs. Vraiment, en hypnose, encore hier, j'avais une patiente. Le premier pas dans une émotion, c'est de l'accueillir. Bon, en CNV, on le sait, en communication non violente, on accueille, on écoute l'émotion.
Avant d'agir,
avant de faire quoi que ce soit. C'est comme je parle à quelqu'un, vient me dire quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, je vais l'écouter. Voilà, bah, l'émotion, c'est pareil. On peut personnifier un peu une émotion en disant qu'est-ce qu'elle a à me dire, comment je la ressens, comment j'écoute son message, avant de vouloir modifier, avant de vouloir mettre en action quoi que ce soit. Et affronter ses peurs, ça vient dire finalement... je vais contre. Mais qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur? Peut-être qu'elle est pleine de leçons aussi. Et qu'elle me raconte une partie de moi-même qui est intéressante.
Du coup, plutôt que affronter, ce serait aller à sa rencontre.
Oui.
Et les embrasser presque.
Bah, en tout cas, aller au contact, oui. Aller au contact, aller écouter, à l'écoute. Et ça veut pas dire lui donner tout le crédit et toute la place. Ça veut juste dire, il y a une part de moi quand, communication non violente. Il y a une part de moi qui ressent ça. Comment je peux prendre soin aussi de ce qu'elle a à dire, qui peut être très très intéressant, qui peut être plein de leçons. Et en même temps, ça m'empêche pas de faire autre chose.
Voilà. Est-ce que du coup, ce message-là que tu portes, c'est un peu le point de relation entre toutes tes différentes activités? Comme tu disais, comme on disait avant, tu fais des ateliers, tu fais l'hypnose, c'est la partie coaching. C'est quoi le message constant que tu retrouves entre toutes ces différentes activités qui te caractérisent très bien, ou effectivement, t'as, comme on disait avant aussi, t'as eu ces apprentissages sur toi. Ah tiens, c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde quand tu vivais des choses fortes. Est-ce que c'est ça le point de cohérence, ou est-ce qu'il y en a un autre?
Je crois que je le cherche encore, le point de cohérence, c'est drôle. Je vois que je suis moi-même dans mon laboratoire, finalement. Si tu prends la Marion d'il y a 2 ans, quand j'ai commencé, j'étais ouverte à tout. J'étais assez floue sur mon public, mes prestations. J'avais juste envie d'expérimenter. Et puis au fur et à mesure, ça s'est affiné. Et je vois que je change un petit peu mon message, je change un peu mon identité, je change un peu mon public à chaque fois. Parce que moi-même, j'évolue. Hein. Je suis dans une grande phase d'évolution aussi personnelle et professionnelle. Je vois que vulnérabilité, c'est un mot qui me touche et qui revient beaucoup dans ce que je fais. Humilité aussi, vraiment. De justesse, humilité. Pour moi, j'ai envie d'accompagner les gens là où ils en sont, eux. Et là où ils sont en vie, où ils ont envie et ils sont capables d'aller. Sans les porter, sans les brusquer, sans voilà, sans voir, moi, c'est pas moi, c'est pas mon objectif à moi, c'est leur objectif à eux. Donc garder l'humilité aussi, que chacun a ses propres fonctionnements, ses propres réponses, que tout est déjà là, et qu'il y a juste à les cueillir, en fait.
C'est intéressant. La raison pour laquelle je te pose cette question, en fait, c'est que quand on regarde ton activité sur les réseaux sociaux, notamment, et les histoires que tu partages issues de tes ateliers, tes accompagnements, il y a toujours cette part de « je viens de vivre un moment incroyablement beau » où quelqu'un s'est ouvert. Il y a une espèce de déclic comme celui dont tu parlais tout à l'heure où tout d'un coup, tu vois toutes les émotions de quelqu'un par rapport à une histoire ou un événement particulier. Et du coup, je trouve ça intéressant de tu soulignes dans toutes les différentes choses que tu fais ce moment-là précis à chaque fois.
Oui.
Comme une espèce de déclic, une découverte.
Pour moi, l'émotion, c'est le déclic. C'est tellement beau, en fait, de voir, de sentir soi ou de voir quelqu'un. Maintenant, j'accompagne, mais je le vis aussi pour moi dans ma vie. Mais de voir ce moment où ça bascule dans une vérité personnelle. Sous forme d'une émotion qui peut être de la tristesse, qui peut être de la joie, qui peut être de la colère. Et d'aller voir une espèce de truc qui s'ouvre, qui n'était pas là avant, qui était plutôt fermé, en retrait, plutôt transparent ou bloqué. Et d'un seul coup, ça s'ouvre ou ça pète, hein, des fois aussi. Et que ça donne accès à autre chose. Ça donne accès à un autre espace de la personne où il y a des choses aussi là à dire, il y a des choses à découvrir sur soi. Dans cet espace-là, un peu les obscurités des fois où on va pas tellement voir. Encore, c'est encore un espace inconnu, finalement. Pour moi, ça, on parle de la même chose, en fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Est-ce que... tu vois, moi, c'est un sujet, une question que je me pose beaucoup. Quand j'entends ce que tu racontes, ça me parle beaucoup, et je sens que... ah ouais, je connecte à ce message-là. Mais j'ai l'impression que dans mon quotidien, notamment dans mon activité, j'ai l'impression que j'arrive pas à identifier ce genre d'espace obscur dont tu parles. J'ai l'impression que... j'ai pas trop d'espace où je me dis « Ah là, j'ai pas trop envie d'aller fouiner parce que ça me fait peur ou j'ai peur de me sentir vulnérable. » Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive pas ou alors je ne sais pas par où regarder. Tu vois, même là, tu me dis et je me dis « Ah tiens, j'aimerais bien expérimenter ça. » Mais j'ai l'impression de pas savoir où aller pour le faire et pour l'expérimenter. Tu vois, j'arrive pas à identifier les franges du tapis, disons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et du coup, c'est cool parce que je vais recevoir les retours en direct, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans la même situation, qui se disent « Tiens, c'est intéressant, mais j'arrive pas à identifier où sont mes vulnérabilités. »
Pour moi, là, ce qui me vient en premier, c'est d'aller tester des endroits inconnus, des activités, des choses. Soit inconnus dans un manque presque d'intérêt, qui pourrait être intéressant, du coup. Soit parce que y a quand même un espace où ça fait peur.
Donc, des activités où...
Ouais.
Où je vois pas la cohérence, par exemple, avec ce que je fais ou avec ce que je vis.
Nouvelles, des expériences nouvelles. Souvent, on me demande, oui, mais lâcher prise, parce que c'est beaucoup avec le lâcher prise aussi, ouais, c'est lié. Oui, mais comment je peux lâcher prise un peu plus dans ma vie, etc.
On rationalise tellement rapidement, finalement.
Ouais. Bah, lâcher prise, c'est aller aussi dans des espaces où, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je perds le contrôle ? Voilà, quand c'est plus moi qui est aux commandes.
Ça me fait marrer, cette phrase exacte-là. J'étais en vacances, là, avec ma copine, et on a fait un petit voyage en bateau pour aller voir les baleines. Et moi, je suis vraiment malade en mer. Et du coup, il y a un moment où je me retrouve au fond du bateau en train de vomir par tous bords. Et ma copine vient de me dire, tu sais, tu vomis seulement parce que tu n'es pas, t'arrives pas à lâcher prise sur le fait que t'es pas le contrôle sur ton corps et ainsi de suite. Et à ce moment-là, moi, je suis là, mais attends, je suis en train de vomir, laisse-moi tranquille. Mais du coup, ça me fait écho avec ce que tu dis là.
Ouais.
Que, c'est peut-être juste, je pense qu'on nous apprend pas aussi ce lâcher prise là.
Et en fait, on est tellement... Enfin, moi, j'en reçois beaucoup et j'ai été comme ça. Hein. Donc, je suis déjà encore comme ça sur certains points. Hein. On apprend tellement à tout sécuriser. Il y a des règles, il y a des cases. J'ai la maîtrise sur tout de plus en plus. Que finalement, on a presque du mal à voir les zones où on n'a plus de maîtrise. Et presque parce que ça fait peur aussi de voir qu'il y a des zones où il n'y a plus de maîtrise. Moi, le saut en parachute, ça a été ça. C'est comment je m'abandonne complètement à une autre personne dans le vide, dans quelque chose qui me fait peur, extrêmement peur. Et qui je suis dans ces situations-là et qui je découvre, en fait. Et là, il y a une autre situation récente, puisque tu parles de tes vacances avec ta copine. Moi, mon copain, il fait de la moto. C'est un espace qui me fait peur aussi, parce que bah, finalement, bah, je suis derrière et je dois complètement me laisser aller à ce qui, à la personne qui conduit, mais aussi à tout ce qui se passe autour, qui est hors de son contrôle à lui. Donc là, c'est un espace où c'est même plus... C'est bien lâcher prise. Lâcher prise, quand finalement, j'ai pas peur, c'est encore... ça va. Quand je suis dans une zone de danger, comme la moto, et que je dois être dans ce lâcher prise pour décontracter mon corps, faire confiance à la personne, et commencer à apprécier ce moment aussi, bah, voilà, c'est tous ces petits moments, finalement, où je suis pas dans... J'ai pas la maîtrise sur ce qui se passe. Mais ça, c'est beaucoup le relationnel en général qui déclenche un petit peu d'ailleurs des choses violentes ou des choses qui sautent à la figure, le relationnel.
Et du coup, c'est là où, en faisant le lien avec ce qu'on disait avant sur la vulnérabilité, tu découvres des choses finalement sur toi et ce qui te parle et là où tu as envie d'aller, mais aussi sur les échanges avec les gens, où c'est des échanges peut-être qui sont plus, plus authentiques. Tu disais, on discutait avant de commencer l'enregistrement, tu disais aussi que ces moments-là de vulnérabilité, c'est en général les moments où il y a des vraies relations qui se créent, des vrais échanges avec beaucoup de valeurs et beaucoup de connexions. Ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que tu penses que quand on est freelance, dans mon cas par exemple, en s'ouvrant et en partageant ce genre de d'espace vulnérable avec nos clients par exemple, j'ai l'impression d'avoir déjà un bout de réponse chez moi, mais je vais te laisser y répondre. Est-ce que ça peut aussi peut-être générer des relations plus saines et authentiques avec nos clients aussi? Est-ce qu'il y a un grand message dans l'entrepreneuriat qui est de dire, ben voilà, ton objectif, c'est de créer de la confiance, donc il faut que tu montres que tu sais vers où tu vas, tu sais où tu emmènes ton client. Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est le tapis encore. Pour moi, c'est les franges, on est encore sur les franges, c'est-à-dire que, autant dire que ma première patiente en hypnose, je lui ai pas dit que c'était ma première. On est d'accord. Enfin, il y en a qui le feront. Moi, c'était me mettre dans une zone qui était en dehors des franges du tapis.
Okay. Ouais.
Et je sentais que c'est peut-être une projection. Après, il y a tout un travail sur... voilà, je vais pas projeter non plus ses peurs sur l'autre, mais ça aurait pas été juste pour la personne de lui dire, bah, en fait, vous êtes ma première patiente. Mmh. Je viens d'être diplômée, quoi. Donc, je l'ai pas dit. Maintenant, je vois qu'il y a des zones où je m'autorise à dire... dans les météos du début, tu sais, où on fait un cercle, par exemple, dans les ateliers, comment on se sent et quels sont les objectifs ou les intentions de la journée. Et il y a, dans mes ateliers de danse-thérapie, de danse intuitive, de plus en plus, maintenant, je vais dans... Bah ouais, je dis la vérité. Au cercle d'ouverture, je dis comment je me sens vraiment. Si c'est stressé, c'est stressé. Je commence à le dire en entreprise un petit peu maintenant quand j'interviens. Et là, je vois que je reste dans des franges pour moi. Et ça permet aux autres d'aller dire vraiment aussi ce qui est présent pour eux.
Ouais. Tu leur, c'est en t'autorisant toi-même presque, tu, d'autres personnes s'autorisent à aller dans les franges. J'aime bien cette image d'aller dans les franges du tapis. C'est cool. Ouais. Et du coup, au final, en t'autorisant ça peut-être avec les clients, ça te permet aussi de, déjà d'autoriser les clients à plus être dans cet espace-là. Et du coup, tu grandis ensemble. Mais je pense aussi que ça peut être un filtre intéressant où tu t'attires des gens qui cherchent aussi ce genre de relation, si c'est important pour toi, d'avoir cette authenticité pardon, et ouverture.
Ouais. Et puis d'aller choper les vraies infos aussi. Et pas les masques. Ouais. Parce que dans n'importe quelle relation, bah là on va parler du pro, mais on fait face d'abord aux masques sociaux, en fait. Aux masques, bon bah voilà, j'attends ça, je veux ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Toujours un peu dans le contrôle. Et finalement, si on s'autorise soit à dire, bah là, en fait, pour moi, c'est pas confortable. Ou, voilà, c'est pas le moment. Ou, je le sens pas comme ça. Ou, tiens, j'avais une idée. Ça aussi, l'innovation, ce n'est que la prise de risque, l'innovation. Innover, proposer des choses nouvelles, des produits, des concepts, c'est se mettre en zone de risque, en vulnérabilité, finalement.
On sait pas si ça va marcher. Parce qu'on contrôle
pas les résultats.
Ben ouais. C'est hyper intéressant. Parce que, une des choses qui m'a poussé, notamment dans le freelance, par rapport au travail en agence, j'avais le choix à un moment, c'était est-ce que je me lance à plein temps en indépendant ou est-ce que je reste dans les cercles agences. C'est que la manière que je voyais les clients travailler avec les agences, c'était montre-moi ce qui a déjà été fait. Donc on faisait des grands mood boards sur Pinterest, on allait chercher des idées qui avaient déjà très bien marché dans le reste du monde. Et on leur montrait toutes ces idées et on essayait de les retordre et les réinventer. Et du coup, les clients, ils disaient, moi, je veux faire quelque chose qui marche. Et c'était pas, je veux des choses nouvelles, je veux aller dans les franges du tapis. C'était pas du tout le message qu'il y avait. Et moi, je me disais, bah, attends, j'ai envie de travailler différemment et donc de proposer ça aussi Donc c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma manière de faire mon métier. Je propose une autre manière alternative d'avancer. Mmh. Et du coup, je vois que c'est un message qui fait écho avec mes clients aussi. Mmh. Il y a des clients qui se disent « Ah tiens, je l'ai pas vu ou on l'a jamais proposé ça, ouais. mais ça me parle mmh. et j'ai envie d'y aller avec toi. » Donc, donc je trouve ça vraiment cool et ça permet aussi, je pense, il y a un truc que je trouve assez récurrent aussi dans le monde du freelancing, c'est les freelances qui se lancent et qui voient comment d'autres personnes avec le même métier fonctionnent et qui se disent « Ah ben voilà, eux ils font ça, je vais faire la même chose. » Et se pose jamais la question de l'innovation, de se dire « Ben en fait, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi et comme, qui j'ai envie d'être ? Et est-ce que je me mets au risque de proposer quelque chose de complètement nouveau mais qui me correspond ?»
Ouais, je vois qu'il y a un lien. Je sais pas s'il y a un lien, je l'analyse pas encore, mais moi j'ai pas eu de mal à démarrer mon activité, tu vois. Pourtant, je me suis lancée toute jeunette. Oui, j'avais un réseau, mais voilà. Mais rapidement, ça a pris forme et j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi. Mes premiers contrats, moi, je démarche jamais. C'est-à-dire que je déteste ça. Là, c'est peut-être justement une zone de vulnérabilité. Mais plus que de... Moi, je me sens pas à l'aise du tout avec démarcher. En tout cas, quand j'ai commencé, c'était hors de question. Et c'est tous mes premiers contrats, c'est des personnes qui sont venues vers moi par mes articles, par mon site, par Facebook, par du bouche à oreille, par des connaissances, et je n'ai eu que ça. Et je sais pas si c'est vraiment... En tout cas, je pose la question, est-ce que c'est en lien avec le fait que aussi, bah, j'ose proposer qui je suis, au maximum de ce que je peux donner, en tout cas, de ma vulnérabilité et de qui je suis, et aussi proposer des choses nouvelles. Enfin, en tout cas, je révolutionne pas le monde du développement personnel, hein, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'est des prises de risques personnelles qui peut-être attirent aussi, comme tu dis, des clients qui ont envie de faire ce pas-là vers la prise de risque aussi, oser.
Il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant quand tu te parlais d'aller creuser pour découvrir les choses derrière le masque. Moi, il y a quelque chose que je dis aux freelances qui débutent et qui essayent d'identifier le problème auquel ils ont envie de répondre dans le monde. Je leur dis, il faut que tu joues au détective. Quand tu rencontres un prospect ou quelqu'un de nouveau, faut que tu joues au détective pour réussir à comprendre sa vie, ses problèmes, et les comprendre même mieux que lui. Et du coup, effectivement, ça te demande de creuser comme ça. En général, moi, je dis poser des questions du style « Si notre collaboration, elle est merveilleuse, et imaginons qu'on soit aujourd'hui dans un an et on est en train de célébrer notre collaboration, à quoi ça ressemble ?» Et d'essayer de toujours creuser dans les valeurs et les besoins de la personne. Mais là, effectivement, ça va un cran plus loin, c'est... qu'est-ce qui rendrait cette personne vulnérable? C'est quoi son espace de vulnérabilité? Et ensuite, connecter avec ça pour l'accompagner là-dedans. Je trouve ça hyper intéressant comme approche. J'ai envie de venir sur ton livre. Tu disais que les gens venaient de tes ateliers, de tes articles, etc. Est-ce que aujourd'hui, ton livre, c'est aussi une manière de te démarquer? J'avais rencontré le frère d'une amie qui m'avait dit « Ah tiens, tu connais Marion Servarin, c'est dingue. » Je m'étais renseigné un peu sur des choses en rentrant de son voyage d'Australie, lui. Et du coup, il était tombé sur ton livre et du coup, on avait discuté de ça. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton livre? Pourquoi tu l'as écrit? Je sais qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment. Et nous dire aussi comment ça te sert dans ton activité, si ça te sert encore. Nous parler un peu de ça.
À la base, c'était vraiment durant mon voyage du coup en Australie. Moi, j'écris depuis que j'ai 12 ans pour moi. C'est vrai que c'est un trait de ma personnalité très fort. Et du coup, j'écrivais pour moi parce que je vivais des choses très intenses, très nouvelles. Alors là, j'étais en zone inconnue de A à Z, hein, donc là, pour le coup, j'ai vécu des choses fortes. Et puis, bon, j'en mettais des messages sur Facebook, c'est devenu un blog. Et à mon retour... je l'ai retravaillé parce que j'ai été poussée par les personnes qui me lisaient, qui me disaient « bah moi je lis jamais et toi je te lis tout le temps, alors tes textes ils sont super longs en plus, et vraiment tu m'emportes, tu me fais voyager avec toi ». J'en ai eu plusieurs et pas des proches en fait, de plus en plus loin de personnes que je connaissais autour de moi. Et puis je pense que c'était un rêve de gamine aussi au fond de moi de publier un livre, donc quand ils me disaient « bah tu devrais publier etc. », j'y croyais pas. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai 9 mois de temps libre où je faisais du coup tous ces ateliers, où j'allais moi vivre des ateliers. Et je me suis dit, je retravaille toute cette histoire-là. Je la propose en e-book quasiment gratuit. Et en fait, c'est... Alors là, j'étais en zone très vulnérable aussi parce que mes textes, je publie des choses hyper personnelles.
Ouais, parce que du coup, tu, au final, dans ce livre, tu parles vraiment de comment tu vivais ce voyage.
Ouais. Et puis dans mes textes, que ce soit sur medium.com ou mon blog de voyage à l'époque, qui maintenant est un peu arrêté, ou mon livre, en fait, dans mes textes, c'est vraiment mes tripes, quoi. Et il y en a plein qui m'écrivaient, mais je sais pas si je serais capable de publier mes textes, parce que c'est tellement personnel, un texte, qu'on a du mal à le publier, justement, parce qu'on a peur du regard des autres. Mais moi, ça a toujours été une évidence, il fallait que je partage. Et en fait, c'est, encore une fois, c'est, quand je partage qui je suis vraiment, ça va résonner avec des personnes qui vivent la même chose ou qui se posent les mêmes questions, etc. Et moi, ça m'a apporté mes premiers contrats, quoi. Ouais. C'est quand même dingue de dire qu'un article sur ma vie perso ou mes voyages m'ont apporté mes premiers contrats.
C'est hyper marrant que tu dis ça, parce que l'épisode qui est sorti la semaine dernière, c'était sur la création de contenu, justement, avec Alexis. Et on déconstruisait dans cet épisode, justement, toute cette peur d'appuyer sur publier quand t'as écrit quelque chose. Parce que les gens s'identifient à ça, ils se disent, mais je parle de moi, ça se trouve, ça va pas plaire, et ainsi de suite. Et du coup, c'est marrant que toi, tu te dises, mais en fait, c'était évident.
Pour moi, ça, depuis toujours, c'est une évidence de partager ça. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses naturelles comme ça, instinctives. Mais maintenant, ça fait flipper, hein. Il y a des moments où j'appuie, où je suis là, oh là 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 là. Je remodifie un peu après. Qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, bah, le livre, c'est pareil. J'ai appuyé, j'ai envoyé le truc, sur la plateforme de e-book, qui était gérée par Cultura. Et en fait, deux semaines après, j'ai un mail comme quoi ils ont adoré, ils ont envie de me publier en papier. Donc ça a été la première version chez Cultura. Et là, ça a été le cadeau de la vie, une des plus belles choses qui me soient arrivées, d'être publiée sans avoir rien demandé, sans avoir galéré avec une maison d'édition,
ouais,
rien,
chercher,
quoi.
Et du coup, donc ça, c'est la première édition qui est sortie il y a combien de temps maintenant?
J'ai du mal avec les dates, en 2016, je crois.
Ok, donc il y a 3 ans. Ouais. Et là, il y a une deuxième édition qui est sortie.
Oui, parce que on est arrivé à la fin de l'édition de la première. C'était une édition limitée. Et puis je me disais, c'est dommage, avec l'élan naturel que ça a pris, des choses de la vie, que ça s'arrête là. Donc je vais chercher une maison d'édition. Et là, encore une fois, juste j'en parle autour de moi pendant 2 mois. Et puis, fil en aiguille, on passe un contact qui me republie. Qui est ok pour me publier, quoi. Un deuxième. Donc là, c'est une maison d'édition un peu plus grosse, mais qui reste une petite. Mais encore une fois, en fait, j'ai mis très peu d'énergie. Et finalement, je vois que quand ça doit se faire, ça se fait aussi. Et donc, la deuxième édition est sortie avec beaucoup plus de contenu de développement personnel, parce qu'ils m'ont demandé d'écrire plus et d'apporter, avec maintenant les connaissances que j'avais en développement personnel, des outils.
Ouais, des outils. Donc en fait, si tu mets en relation ce que tu vivais sur l'instant et les questions que tu te posais, avec du coup des clés derrière pour que on puisse transformer ça pour les lecteurs. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à toi après avoir lu ton livre, qui t'écrivent, qui te questionnent, qui travaillent avec toi même d'ailleurs peut-être?
Honnêtement, voilà, enfin, j'ai pas la proportion de ça, mais je sais que mes écrits, ça a été la première connexion. Même avant que j'en fasse mon métier en freelance. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à me faire démarcher au Québec, alors que, par des Français et par l'Europe, par des Belges aussi, des personnes qui voulaient travailler avec moi, des assos, des entreprises, etc.
Avant même que tu sois lancée, quoi.
Mais j'étais pas lancée. Donc c'est aussi ça. Il y a eu plein de petits signes, en fait, des synchronicités ou des signes de la vie, qui m'ont dit, mais en fait, je crois que vraiment c'est juste pour moi de me lancer, même si c'est une prise de risque.
Est-ce que t'as... J'ai l'impression de savoir quelle va être cette recommandation, mais ce serait quoi ta recommandation pour quelqu'un qui aujourd'hui se dit, tiens, moi aussi ça m'inspire beaucoup d'écrire, qui écrit peut-être d'ailleurs déjà un blog ou pas, et qui se dit, tiens, j'aimerais bien partager ça dans un livre. Parce que je pense que le livre s'est perçu comme un énorme rêve de gaming, comme tu disais, mais j'ai l'impression que c'est très flou le point de départ. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on contacte en premier la maison d'édition? Qu'est-ce que tu dirais, toi, comme étant le premier plus petit pas possible pour se lancer?
Pour moi, le plus petit pas possible pour se lancer, c'est l'article. Ou l'article Facebook, ou l'article sur un blog, ou quoi. Ou même le post Instagram. En fait, juste commencer à publier ses écrits. Déjà pour soi, se confronter à cet acte fort de montrer qui on est et ce qu'on a à dire, se confronter au regard des autres, se confronter à la toile, quoi, aussi, voir ce qui en ressort, et aussi pour être vivant et apparaître sur les réseaux. Pour moi, Alors, on a beaucoup de polémiques, hein, surtout dans mes milieux de développement personnel, les réseaux oui, les réseaux non. Parce que voilà, bon, il y a du oui, il y a du non. Pour moi, c'est comme tout, c'est un outil. Si on prend les bons côtés et qu'on l'utilise avec parcimonie et conscience, je pense que moi, ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Donc déjà, se lancer avec un article, un blog, et après le e-book, aujourd'hui, c'est tellement facile de proposer des e-books ou même des PDF. Voilà, sur ça, et après, si c'est vraiment l'étape du dessus, il y a plein de formes d'auto-édition ou d'édition. J'ai pas de conseils à donner là-dessus, dans le sens où presque on est, enfin, encore une fois, la vie est venue vers moi, en fait, c'est quand même étrange. J'ai démarché aussi des maisons d'édition, des grandes maisons d'édition, bah, je me suis fait envoyer, clairement, et c'est tant pis, enfin, c'est tant pis et tant mieux, en fait. J'avais qu'un espoir vraiment de me dire je vais être acceptée par une grande maison d'édition. Et donc, comme j'ai pas de frustration, je pense que ça me permet de pas perdre d'énergie et de continuer de mettre de l'énergie là où ça répond.
Donc, l'idée, ce serait presque juste de dire, en fait, ose te rendre vulnérable en montrant ce que tu écris, ce que tu penses, tes convictions, ce qui est important pour toi, en écrivant et en partageant ça, quoi.
Ouais.
Ce qui est, du coup, une belle clé complémentaire à l'épisode d'avant, de se dire, ben, en fait, c'est un espace de vulnérabilité, certes, sur les franges du tapis, mais c'est là où la magie s'opère.
Ouais.
On va en venir aux quelques dernières questions qui deviennent traditionnelles. La première, c'est quoi ta plus grosse galère? La raison derrière cette question, c'est que c'est un commentaire qui me vient d'un auditeur du podcast qui dit... c'est cool, il y a des podcasts qui sont assez inspirationnels, où on se pose des bonnes questions, ainsi de suite, mais j'aimerais bien voir la partie vraiment humaine et terre-à-terre des gens derrière, où ils ont des vraies galères, mais ils peuvent s'en remonter, parce que c'est aussi source d'espoir. C'est quoi ta plus grosse galère que tu as vécue en freelance, et comment tu as réussi à la dépasser?
Eh ben, j'ai réfléchi à cette question, parce que tu me l'as envoyée, et le mot galère est peut-être trop fort, parce que je ne pense pas avoir vécu de galère, honnêtement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu des zones d'inconfort, clairement, beaucoup. Et puis c'est aussi savoir dire non. Par contre, ça j'aimerais bien, ouais, aussi en parler, de dire bah il y a des fois où on est en zone d'inconfort, il faut accepter et reconnaître ses limites. Et ça c'est hyper fort et hyper important de quand on sent que c'est pas ok, que c'est trop tôt ou que c'est pas de cette façon-là qu'on aimerait faire les choses ou les vivre. De savoir dire non et de se respecter là-dedans, en fait. Et ça, pour moi, je crois que j'ai plus ou moins une facilité quand même à le faire. En tout cas, j'apprends de plus en plus. Le premier contrat que j'ai eu, bah, en fait, si je veux quand même dire une grosse zone de vulnérabilité, ça a été mon premier contrat. C'est-à-dire, je rentre du Québec, je suis en vacances, c'est le mois de juillet, et je reçois un mail, donc quelqu'un qui m'a connu sur un de mes articles de voyage, qui me demande si je peux animer un séminaire de 60-70 personnes.
Ah ouais.
Premier contrat de ma vie. Alors là encore, hein, je l'ai pas dit, hein, que c'était le premier que je me lançais. Hein. Et ben là, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Honnêtement, je viens de rentrer, je me lance à mon compte.
Direct.
10 jours après, gros quoi. 10 jours après, et ça vient tout seul. Et là, ça a été un gros moment de oh mon Dieu. Oh, c'est génial, mais je vais pas y arriver, mais je suis pas, non, mais c'était, mais même dans mon corps, il se passait des choses très, très intenses de est-ce que je dis oui, mais non, je suis pas capable, c'est trop tôt. Mais en même temps, il y a ce moment où, bah, putain, Marion, tu voulais? La vie, elle te l'amène. Ouais. C'est un test, clairement. Donc, tu peux pas dire non. Il y a ce moment dans ma vie, il y a plusieurs moments où je peux pas dire non, en fait. Et donc, je dis oui, et ça se fait, et oui, alors là, les pétoches, quoi, les pétoches, mais au final, une fois qu'on a dit oui, une fois que la machine elle est en route,
on se donne les moyens.
On se donne les moyens, clairement. On se prépare, on se donne les moyens. Mais c'est aussi bien de, des fois, je le sens pas et je dis non, clairement. Je dis non parce pour plusieurs raisons, mais je dis non.
Quand on est plus sur les franges et qu'on est trop loin hors du tapis, du coup.
Ouais.
Merci pour ce partage. La prochaine question qui vient derrière, t'en as un peu parlé. Tu parlais de ta Marion plus jeune. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à Marion qui du coup se lance? C'est son premier jour, elle n'a pas encore ce gros contrat. Parce que du coup, c'est le jour 1, c'est pas le jour 10. C'est quoi le grand conseil que tu lui donnerais suite à la route que tu as parcourue depuis?
Moi, ce qui me vient, c'est écoute-toi. Fais-toi confiance. Les petites intuitions, j'ai beaucoup de petites voix intérieures. C'est de petits, les petites idées qui naissent comme ça. Les, tiens, je ferais bien ça. Ah tiens, nouveau concept, je ferais bien ça. Et je les écoute énormément, en fait, de plus en plus. Et je vois que ça m'emmène toujours un pas plus près de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, avec qui j'ai envie de le faire, et que ça devient de plus en plus facile et fluide et plaisant de le faire. Donc vraiment m'écouter, me faire confiance, d'oser faire dans la matière. Mais finalement, j'ai pas tant de conseils. Je referai pas de choses différemment, je crois. Donc,
c'est la deuxième personne à me dire ça.
Ouais.
Que tu referais pas différemment, quoi.
Non.
Parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi un peu le message que tu portes avec cette histoire de vulnérabilité, c'est de dire, tous les apprentissages sont là pour une raison, et au final, si on les court-circuite, on passe à côté de choses importantes.
Ouais. Au Québec, j'ai vécu une année hyper difficile, isolée, passé un an de doute, à savoir est-ce que je continue mes études ou est-ce que je me lance en freelance et je rentre en France, ou autre chose. Ça n'a pas été que des hauts aussi, hein. Ça a été des gros bas, et cette année-là, ça a été hyper difficile. Mais ça fait partie du processus, en fait. Je pense vraiment que ça fait partie du process. Mais il faut savoir s'en sortir aussi.
Ouais, bien sûr.
Pas rester dans ce creux de la vague.
Remonter sur la planche.
Ouais.
Et du coup, c'est quoi la question que t'aimerais poser à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, suite à tout ce qu'on vient de se dire, pour que cette semaine, ils se posent et réfléchissent à leur activité et leur vie de freelance?
Bah, c'est à l'idée du tapis. On va reprendre le tapis. Et quel est le prochain pas, le plus petit pas qu'on utilise avec Marie, avec toi, avec tous les coachs, les plus petits pas. Quel est le prochain petit pas que vous pouvez faire cette semaine pour aller un peu plus vers la frange du tapis, vers cette zone de vulnérabilité où vous sentez que, oui, ça fait peur, il y a quelque chose qui est un peu fébrile. Et en même temps, c'est là où il y a toute cette zone d'apprentissage, d'évolution, de transformation, de connexion à soi, aux autres. Et en fait, de bon en avant dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et quel est le prochain petit pas en dehors de ce tapis sur les franges que vous pouvez faire cette semaine?
Trop bien. C'est une merveilleuse question et je suis sûr que les gens vont bien, bien connecter avec cette métaphore-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, ou te contacter pour les gens qui voudraient répondre à la question en direct?
Ouais.
Ou pour suivre tes articles, tes écrits, tes ateliers, pour les gens que ça peut inspirer, la danse intuitive, par exemple.
Oui. Eh ben, sur Facebook, je suis assez active sur Facebook. J'ai une page qui s'appelle Marion Servarin, hypnothérapeute, coach, auteur. J'ai un profil aussi pro Marion Servarin, pareil. Donc, vous pouvez m'écrire, me retrouver. J'ai un site internet aussi, voilà.
Je mettrai le lien pour faciliter les choses.
Un compte Instagram, j'ai tout plein de choses, je suis assez disponible.
Ok, cool. Et si vous voulez répondre à cette question et m'envoyer vos réponses aussi, vous pouvez me les envoyer à hello@thomasberbidge.com et je me ferai un grand plaisir de lire quel est le prochain petit pas sur les franges du tapis.
Oui.
Merci beaucoup Marion.
Merci à toi.
Et on se dit à très bientôt sur le podcast.
À bientôt.
Bye bye.
Bye.
J'espère que cet épisode t'a plu et que tu apprécies cette approche qui peut changer un peu de ce que tu entends habituellement, notamment sur le sujet de la zone de confort. Alors comme tu sais que j'aime être concret et que l'objectif de ce podcast, au-delà de simplement te questionner chaque semaine, c'est aussi de te permettre de passer à l'action. Et du coup, je te propose un petit exercice pour qu'on aille explorer ensemble les franges de ton tapis. La première chose, c'est de prendre un moment pour brainstormer, réfléchir et lister 20 choses que tu n'as jamais essayées, des expériences nouvelles. Et peu importe le domaine de ta vie, pas forcément dans du pro d'ailleurs, je te recommande d'aller chercher d'autres choses. Ça peut être par exemple d'aller vivre un atelier de danse intuitive avec Marion, ou alors tout simplement d'aller à une conférence sur un sujet sur lequel tu ignores tout. Essaie de lister à la fois des choses qui pourraient te faire un peu peur, te challenger, et d'autres avec lesquelles tu te sentirais plus confortable, plus à l'aise. Ensuite, hiérarchise, classe ces éléments, de celui qui, selon toi, te fait le plus sortir de ta zone de confort, jusqu'à celui qui, au contraire, est carrément à l'intérieur de ta zone de confort, avec lequel tu te sens vraiment à l'aise. Et en faisant cette hiérarchie, si tu te rends compte que tu n'as aucun élément sur ta liste qui te fait peur, qui te challenge un peu, qui tu sens que ça te remue à l'intérieur, alors brainstorm de nouveau pour en rajouter. C'est important d'avoir cet équilibre-là. Et puis ensuite, à la fin, quand tu auras classé tout ça, choisis un de ces éléments, celui qui pour toi se trouve sur les franges du tapis, pas trop à l'extérieur de ta zone de confort et pas non plus trop à l'intérieur. Et identifie le prochain plus petit pas possible, comme te le demande Marion, pour aller explorer ta zone de vulnérabilité. Et on verra ce que tu y découvres. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild & Freelance. Bye bye.